Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Je suis aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence où nous venons de faire l'émission La France dans les yeux avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc dans la foulée, on a enregistré un épisode avec Perrine Vasque qui suit la campagne de Jean-Luc Mélenchon ici depuis les Alpes de Haute-Provence. Pour tout vous dire, et vous allez l'entendre, on l'a fait en extérieur au milieu de la nuit. À la belle étoile et on chuchote un peu puisque on était à l'extérieur de l'hôtel et on voulait pas réveiller les gens qui dormaient. Donc nous sommes dans la nuit du jeudi 17 février au vendredi 18 février. Donc si on se réfère à la date du 18 février, ça veut dire que nous sommes à 65 jours du choix des Français. Bon alors Perrine, on a fait combien d'épisodes de ce balado ensemble? Pas mal hein?
Ah je sais plus.
T'étais dans des trains...
sur des quais de gare?
Oui, moi j'en ai fait une fois, je m'apprêtais à prendre un avion et vraiment ça s'est joué à 2 minutes près.
J'allais
rater mon avion parce que je finissais un épisode avec toi. Enfin bon, là on est dans un cadre un peu particulier. Il est donc quoi, une heure et quart du matin, nous sommes à la Belle Étoile. C'est plus la pleine lune parce que c'était la pleine lune, je crois, la nuit dernière. Où il y a
non, on
ne
voit
nuits.
Pas la lune. Là.
Si, elle est au-dessus de toi.
Ah, je ne la vois pas.
Ouais, tu regardes les étoiles, c'est magnifique.
Ouais, sublime.
Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, au bord de la Durance. Nous sommes près d'une belle bâtisse.
Avec des oliviers partout.
Voilà, nous sommes sous un olivier.
Ouais.
Et il faut le dire, nous vous avons ouvert une bouteille de vin rouge, donc disons-le.
Pour finir notre journée.
Voilà. Et nous ne sommes pas tout seuls, nous avons un accompagnant,
un
passager clandestin qui va nous écouter en buvant. Bon, donc on vient de finir l'émission avec Jean-Luc Mélenchon. Toi, tu suis la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Tu vas d'ailleurs passer dans quelques heures, tu vas dormir un peu et tu vas le suivre.
Vous
allez à Barcelone, je crois. C'était une émission importante pour lui, un moment important. Ouais. La France dans les yeux, puisque voilà, on voit qu'il grappille un peu des points dans les sondages. Il y a eu hier Ségolène Royal qui a dit sur BFM TV que Mélenchon était le vote utile. On voit qu'il y a quelque chose qui se joue maintenant, peut-être une cristallisation qui pourrait lui permettre d'accéder au second tour, ou pas d'ailleurs, de cristallisation qui mettrait fin à cette course. Donc c'est important cette émission. Moi je suis le plus mal placé parce que j'étais dans l'émission.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as pensé toi de l'émission de Jean-Luc Mélenchon dans l'émission? Qu'est-ce qui t'a frappé?
En fait, c'est difficile, c'est ce que je te disais à l'issue de l'émission, c'est difficile
ou
parce
en même
que...
temps, hein.
Vas-y. Tu sais, maintenant, on est quand même fin février, quasiment maintenant, mi-février, et je l'ai tellement suivi, je l'ai tellement vu, que, disons qu'en fait, je connais ces trucs et astuces. Là, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon en meeting ce soir.
En meeting?
C'est-à-dire comme quand il est en meeting. C'est-à-dire, tu sais, très mobile.
Ouais. Et il bougeait beaucoup. Alors qu'au début, il restait assis sur sa chaise, il disait mais j'ai pas envie de bouger. Et en fait, il a beaucoup bougé.
Et en fait, très vite, ce qui était bien, je trouvais, c'est qu'il allait très près des gens quand il leur répondait. Donc visuellement, ça faisait un échange assez tranchant. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé Jean-Luc Mélenchon sur le fond, difficile de le coller, même si parfois ça a été un peu plus flottant.
On va en reparler. Ouais.
Voilà. Et puis finalement, quand tu connais tellement ses propositions, tu connais tellement les réponses qu'il va apporter, qu'effectivement, tu n'arrives plus à avoir un regard neuf. Ce qui m'a frappé en tout cas, tu parlais de cette séquence particulière pour lui et de ce rendez-vous important. Je pense que pour eux, c'était vraiment un rendez-vous important, cette émission, parce qu'ils l'ont fait dans la ruralité. On était
digne
les bains, absolument.
Ouais.
Et c'était vraiment important pour eux d'avoir cette séquence ruralité que la campagne ne leur a pas permis d'avoir jusque-là.
Ouais.
Et quand je l'ai vu ce matin, parce que alors, juste avant l'émission, on est parti visiter une cathédrale à Digne-les-Bains avec lui, qui était fermée.
La cathédrale.
Il y en a deux, figure-toi.
Il y a deux
cathédrales à Digne-les-Bains. On s'est trompé de la première, donc on sait qu'il y en a deux maintenant.
deux cathédrales catholiques ? Non, une cathédrale protestante.
Ouais, non, deux cathédrales, mais une beaucoup plus ancienne. D'accord. Et puis la principale du village, au clocher.
Moi, j'y suis allé ce matin. Ouais. Enfin, oui.
Voilà. Et la cathédrale Saint-Jérôme, dont tu as parlé après. Et elle était fermée. Du coup, on a fait une déambulation dans la rue. Déjà, j'ai pu voir qu'effectivement, si on était là pour la France dans les yeux, c'était pas un hasard. C'est qu'il avait fait un très bon score dans la région en 2017. Et effectivement, il a eu un accueil des gens dans la rue. Et
d'ailleurs, on l'a vu ce soir.
Très bon.
Les gens du public qui sont venus. Absolument. C'est la première fois depuis. C'est la troisième émission qu'on fait. On a fait Pécresse et Zemmour avant. Là, il y avait des applaudissements spontanés. On n'avait pas prévu les applaudissements. D'ailleurs, c'était un peu embêtant parce que ça interrompait le rythme de l'émission et c'était pas ce qu'on cherchait.
C'était pas ce qu'on cherchait. Ouais. Et en fait, effectivement, je l'ai trouvé décontracté, presque un poids en moins sur ses épaules parce qu'en fait, le scénario qu'il s'était mis en tête avec grappiller, tu sais, Manuel Bompard m'a dit dimanche dernier, voilà, on était à Montpellier pour son meeting à Montpellier.
6 000 personnes,
beaucoup. Oui, il y avait 8 000 personnes.
8 000 personnes.
Et il me disait juste avant, nous, ce qu'on veut, c'est grappiller un ou deux points dans les sondages pour avoir un seuil de crédibilité pour être le vote utile.
Absolument.
Et là, cette semaine, il prend un point, il est à 11. Ségolène Royal parle de vote utile. Et Manuel Bompard me disait tout à l'heure, on a gagné 15 jours. Sur notre planning. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a parlé de vote utile Jean-Luc Mélenchon. C'est pas fait, le chemin est encore long, mais j'ai senti, je l'ai senti, lui en tout cas, content de.
Et concentré avant l'émission. D'ailleurs, petite incise, j'étais sur France Inter hier, et Sonia Duvillard, qui visiblement est une auditrice de notre balado, a repris des extraits, notamment des extraits de toi et de Léopold, qui est souvent dans le balado. Et en étant, elle m'a demandé pourquoi est-ce qu'on parlait autant de la forme, de la manière dont ils, de comment ils étaient, comment ils apparaissaient à la télé. Mais ça compte parce qu'on fait de la télévision.
Et parce que c'est ce que les gens voient.
Et c'est parce que c'est les gens voient. Et je pense aussi parce que cette émission-là en particulier est un moment de vérité. C'est-à-dire que dans l'échange, on avait déjà parlé la semaine dernière dans l'épisode qu'on avait fait avec Éric Zemmour, enfin sur Éric Zemmour avec Léopold Audebert à la fin de La France dans les yeux. Dans l'échange avec des Français, la confrontation avec des gens qui ne pensent pas comme eux, ou parfois des gens qui sont plutôt sympathisants mais qui sont dubitatifs sur leurs propositions, il y a quelque chose de vérité qui passe, quoi. Soit. Et d'ailleurs, les trois, Pécresse, Zemmour et Mélenchon, qui l'ont fait, ont eu des moments comme ça d'échange. Et il y a quelque chose qui passe dans le regard, dans la position, quelqu'un debout à un mètre de lui. Voilà, donc ça compte aussi cette partie-là. Je referme la parenthèse. Mais il y a eu notamment cet échange aujourd'hui avec qui s'appelait Magide, c'est ça ?
Oui, sur les retraites.
Retraité, donc qui travaillait dans l'éclairage public, qui gagnait, je ne me souviens plus exactement, mais qui gagnait pas mal sa vie. Je crois environ 3000 euros par mois.
Je me souviens plus.
Mais c'était essentiellement des primes. Et donc il s'est rendu compte qu'en arrivant à la retraite qu'il allait toucher une retraite de moins de 1000 euros. Et donc il posait une question là-dessus. Et c'est pas du tout un opposant à Jean-Luc Mélenchon parce que je crois qu'il avait même voté pour lui en 2017, il l'a dit.
Mais il l'a pas lâché. Hein.
Il l'a pas lâché. Ouais. C'était un vrai moment de vérité parce qu'en fait, il allait au bout. Et en gros, il disait, Jean-Luc Mélenchon, moi je crois en vous. Enfin, en gros, ce qu'il veut dire, c'est moi je suis prêt à croire en vous, mais qu'est-ce que vous faites pour moi
qu'est-ce qui me reste là aujourd'hui? Absolument.
Comment je fais moi et même si vous dites que vous allez augmenter les petites retraites, si tous les prix augmentent, comment on fait?
Et ça a été un peu la même chose pour les droits de succession. Où effectivement les droits de succès. Il y a un moment aussi quelqu'un qui un monsieur qui ne lâchait pas, qui disait voilà moi j'ai fait ça pour mes enfants, pour ma famille et je ne veux pas que l'État me vole ce que j'ai acquis. Je trouve ça, tu sais, c'est ce que je me disais pendant cette émission. Déjà j'ai trouvé que sur cette émission-là particulièrement c'est plus les hommes qui osaient plus rentrer dedans. Mais je me disais quand même les gens n'ont pas peur.
Avec Zemmour c'était voilà, Zina.
C'est ce que tu m'as dit. Mais je me disais les gens n'ont pas peur aujourd'hui en fait de rentrer, tu vois, dans le candidat quand il lui dit un truc, ils sont pas spécialement impressionnés. Au départ, ils sont impressionnés, mais après, ils rentrent dans le combat et dans le débat. Et je trouve ça vachement intéressant. Et justement, ce qui est bien dans cette émission, ce que j'ai vu là, c'est que c'était vraiment des sujets hyper concernants.
Un passager clandestin, moi aussi.
Et les gens n'hésitaient pas à rentrer dans le candidat Mélenchon. C'est un exercice qu'il n'a pas du tout en meeting, forcément. Ouais. Alors, il nous disait à la fin de l'émission qu'il se méfiait de toi et de Jérémy Trottin, qui derrière est très précis sur les propositions.
Ouais, mais c'est les Français drôle d'aller chercher les précisions.
Mais les Français vont chercher aussi ça. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que moi, quelque part, quand j'entendais ces échanges par moment, j'avais l'impression d'être chez mes parents et mes parents qui sont pas d'accord sur des trucs typiquement la transmission aux enfants, l'héritage, c'est quelque chose qui est très important pour les gens quand ils vieillissent.
Absolument.
Et je trouvais ça très intéressant d'avoir un échange comme
d'ailleurs, ça. D'ailleurs, petit ainsi, ce restaurateur qui penser à son patrimoine et à la transmission du patrimoine et les droits de succession, c'est pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent.
Non.
C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a un petit restaurant. Il n'est pas du tout fortuné. Il a du mal d'ailleurs à se sortir, à se mettre de l'argent de côté. C'est justement pour ça qu'il dit, mais justement, ce que je suis en train de construire, ce bien, ce patrimoine que je veux léguer un jour à mes enfants, pourquoi est-ce que l'État devrait prendre 50% dessus?
Bon. Et justement, toi qui le suis moins, est-ce que tu as entendu des réponses concrètes aux questions concrètes des Français?
Alors, je dois dire que... à plusieurs reprises, je me suis dit, il est bon quand même. Il est bon parce qu'il arrive à esquiver sans aller vraiment. Et il est intéressant, il te donne du contexte, il te rappelle pourquoi.
Absolument.
Ceci.
Il prend de la hauteur.
Il prend de la hauteur, il est vraiment brillant. Mais en fait, il y a, par rapport à Pécresse ou Zemmour, dans les deux mêmes exercices ces dernières semaines, c'est celui qui a donné le moins de réponses concrètes. Il faut que je précise qu'on chuchote parce qu'on est mort. Et on a les chefs qui dorment dans l'hôtel qui est à côté, donc on n'a pas envie de les réveiller parce qu'ils ne vont pas être contents. Donc, il y a eu un autre moment, puisque tu disais qu'à la fin, il nous a un peu tensé, il nous a un peu chambré à la fin de l'émission en coulisses. Mais il y a eu, nous, on est moins intervenus dans les précédentes émissions parce que vraiment, il parlait tellement longtemps que.
Exactement, c'était long.
Les chefs dans l'oreille nous disaient non, on n'a pas le temps de vous prendre, on n'a pas le temps de vous prendre. Mais il y a quand même eu un moment où par exemple, moi, il y avait un homme, un père de famille qui disait qu'il votait Zemmour, qui voulait l'interroger sur l'immigration. C'est un moment assez où je pense que Jean-Luc Mélenchon pense avoir dominé cet échange.
Oui.
Enfin, sans exagérer, je pense qu'il a, parce qu'il l'a pris par une forme de complicité, il a voulu sortir. Je crois, il a voulu sortir quelque chose de l'humanité de ce monsieur.
En lui disant, si vous avez un immigré qui vient vous demander de l'aide, est-ce que vous allez l'aider?
Ben oui, il lui a dit évidemment.
Il lui a dit oui, bien sûr.
Et moi, après, j'ai relayé une question de tes spectateurs sur l'immigration. Et j'ai ajouté une petite question complémentaire que je me posais, je pense que c'est une question qui n'est pas agressive. Est-ce que les déboutés du droit d'asile doivent être reconduits dans leur pays d'origine? C'est une question qui se pose, qui est complexe, parce que beaucoup de pays ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, et donc il y a tout un rapport de force diplomatique qui est compliqué avec l'Algérie, le Maroc, avec le Mali. Et c'est une vraie question de politique publique compliquée. Mmh. Et il n'y a pas de réponse simple, et on le sait.
Dont la France a du mal à sortir,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, c'est vraiment compliqué. Mmh. Et donc je lui demande tout simplement ça, est-ce que les déboutés de droit d'asile doivent être reconduits à la frontière? Et si oui, comment? Et alors là, s'il y a eu un échange qui... Si j'ai bien compris, parce que j'ai vu sur Twitter qu'il y a eu des gens ont trouvé des moments très agressifs. Moi, je l'ai pas vécu comme un moment.
C'était un peu virulent quand on le. Moi, qui étais derrière en coulisses, j'ai trouvé que c'était un peu virulent.
Moi, je l'ai pas trouvé. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas l'impression d'être particulièrement agressif. Et lui, je l'ai pas trouvé particulièrement agressif à mon égard. Je trouvais simplement qu'il ne répondait pas à la question.
Oui.
Et donc, je lui reposais la question. Mmh. Et je pense qu'on a abouti à un moment. Enfin, un moment de vérité, en tout cas, je pense qu'on est arrivé à lui faire dire, enfin, lui faire dire ce qu'il pense vraiment. C'est-à-dire que, à la fois, il est sur le principe pour respecter la loi, et en même temps, il ne fera rien pour les reconduire à la frontière.
Il parle de capturer, d'ailleurs.
Oui, en gros, il dit, si c'est pas possible de les renvoyer dans leur pays d'origine parce que les pays d'origine n'en veulent pas, ce sera comme ça, on les renverra pas. Enfin, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est que ça sera pas possible de les renvoyer.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit en coulisses, souviens-toi, il nous dit...
Après l'émission.
J'ai dit, devant cette personne qui votait Zemmour, sous-entendu, que j'allais régulariser les sans-papiers. Et tu sais, il a eu cette formule juste après, il a dit, mais de toute façon, je ne veux pas mentir sur mes convictions, etc. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme qui admire énormément François Mitterrand. Et quand il dit ça, ça m'a rappelé François Mitterrand, souviens-toi, à l'élection présidentielle de 1981, quand il répond à la question d'Alain Duhamel.
Sur la peine de mort.
Est-ce que vous allez légaliser la peine de mort? Et il dit... Est-ce que vous allez abolir la peine de mort? Et il dit, les sondages à l'époque, c'était plus de 60%, je crois que les gens voulaient la garder. Et il dit, je sais que les sondages disent l'inverse, mais moi, dans ma conscience d'homme, je veux abolir la peine de mort. Et c'est un moment qui lui a été...
Reproché sur le moment.
Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, avec l'histoire, qui lui est vraiment devenu comme un vrai moment de vérité d'un vrai président.
À l'époque, à la fin de l'émission, je crois que c'est Alain Duhamel qui me racontait ça un jour, à la fin de l'émission, les proches de François Mitterrand étaient furieux contre Alain Duhamel.
Ils ne savaient pas qu'il y avait cette question.
Furieux contre Alain Duhamel parce qu'ils pensaient qu'il avait cherché à piéger le candidat Mitterrand, parce que c'était à la toute fin de l'émission et qu'ils étaient un peu pris par le temps. Et en fait, c'est l'un des moments les plus forts de cette campagne. Absolument. Et de cette élection de François Mitterrand. Mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon...
Il m'a fait un peu penser à lui à ce moment-là. Enfin, en tout cas, je pense que dans sa représentation de l'homme politique honnête sur ses convictions, il pense quelque part à ça.
Et sur la forme, et ça c'est pour Sonia Duvillers qui, visiblement, trouve qu'on parle trop de la forme, mais ça compte. Moi j'ai trouvé, mais je suis plus mal placé parce que j'étais sur le plateau, que autant dans la première heure, il avait été extrêmement... Enfin, c'était le Mélenchon, le prof.
Ouais. C'est-à-dire qui est dans ses meetings, absolument.
Le Mélenchon qui est dans ses meetings, qui est très éloquent et qui, dans une forme de facilité, de langage, de tribun. Et dans ces moments-là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, 20 minutes, on a parlé des questions d'immigration, j'ai trouvé plus tendu, plus... Alors certains diront plus agressif, en tout cas sur les réseaux sociaux, visiblement, certains l'ont trouvé agressif. Et en tout cas, un peu plus dans une forme, moi je trouve, dans une forme de limite de sa capacité, à être au second tour, parce que évidemment, il aurait pu dire, je sais pas, je comprends à la fois qu'il veut être sincère et qu'il veut défendre une position qu'il considère être plus humaine, et en même temps, je pense que dans ce moment-là, il y a un blocage qui reste pour une partie des électeurs.
Qui
empêchera ses électeurs de voter Mélenchon, même malgré le vote utile, etc.
Tout à l'heure, justement, j'avais cette conversation avec lui quand je l'ai suivi à Digne-les-Bains, avant l'émission.
Ouais.
Et je lui ai dit, maintenant que l'on parle du vote utile, il y a peut-être des choses dans vos discours que vous devrez peut-être adoucir, gommer, des aspérités que vous devrez gommer. Et il m'a dit...
Faire des compromis.
Voilà. Ouais. Et il m'a dit, la première leçon en politique qu'il faut retenir, c'est qu'au premier tour, vous parlez à votre électorat.
Oui, sauf que c'est vrai. Et en même temps, c'est contradictoire avec ce dont on parlait au début, avec l'idée du vote utile.
Absolument.
Parce que le vote utile, ce qui se joue en ce moment, c'est est-ce que des gens qui généralement votent écolo, généralement votent socialiste, généralement votent je sais pas quoi, pourraient se dire, bon, je suis un peu comme ça, je suis pas d'accord avec tout avec Mélenchon, mais...
Pragmatiquement,
c'est le mieux placé, et il faut que quelqu'un défende les valeurs de la gauche, et au fond, c'est lui qui défend le mieux les valeurs de la gauche. Bon. Et pour ça, il faut rassembler. Mais je dis pas qu'il va pas arriver au second tour. Je dis juste que à ce moment-là, et tu l'as bien dit, il fait un choix de vérité. Il dit vraiment ce qu'il a au fond de lui sur ces questions-là. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des messages des gens qui trouvaient que à ce moment-là, dans cette partie-là de l'émission, c'était pas le meilleur Mélenchon.
En fait, on a eu l'impression à ce moment-là qu'encore il niait un certain nombre de problèmes qui de toute façon existent dans la société française aujourd'hui, qui sont toutes, enfin. Qu'on le veuille
qui traverse le débat politique.
Absolument, et que le monsieur d'ailleurs traduisait assez bien dans ses propos, qui n'étaient pas extrêmes.
Le monsieur n'était pas agressif.
Voilà. Et là, on voyait une sorte de déni de Jean-Luc Mélenchon de ce problème. Et c'est vrai que je me suis fait la même réflexion que toi, je me suis dit, au moment de la campagne où l'on est, c'est peut-être plus le moment de faire ce déni.
Il ne s'agissait pas de dire...
De prendre le propos d'un autre, bien sûr.
Non, évidemment, il ne s'agissait pas de... Exactement, de coller à quelqu'un d'autre, mais... J'ai trouvé que dans la forme, la manière dont il se crispait sur cette question-là, et notamment, franchement, ma question, je lui ai dit d'ailleurs après la fin de l'émission, je vais penser à cette question-là sur faut-il ou pas reconduire les déboutés du droit d'asile. J'ai pensé à ça parce que j'ai entendu récemment Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, qui progresse aussi dans les sondages, qui arrive à 4, 4,5, 5 dans certains sondages, dire, bah oui, évidemment qu'il faut reconduire à la frontière les déboutés du droit d'asile, en tout cas quand c'est possible, parce que justement, c'est une condition nécessaire pour préserver le principe du droit d'asile. Et on peut être d'accord avec Roussel ou d'accord avec Mélenchon, ou d'accord avec aucun des deux, mais c'est pas une question... c'est une vraie question de principe, c'est-à-dire que si on croit au droit d'asile, si on croit qu'il faut apporter une protection particulière pour ceux qui sont martyrisés dans leur pays, qui doivent être protégés dans notre pays, parce que justement notre pays les accueille pour protéger les plus faibles...
Il ne faut pas le dévoyer.
Il faut peut-être pas le dévoyer. Mmh. Et en tout cas, il ne me semble pas que ma question était particulièrement agressive.
Et là, on a senti une idéologie, en fait, très forte de la part de Jean-Luc Mélenchon.
Ou des convictions profondes.
De convictions, c'est vrai, tu as raison. Ou peut-être, si on repense à la phrase qu'il m'a dit juste avant, au premier tour, il faut parler à son électorat, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait 3 semaines que je parle de ça avec son directeur de cabinet, avec son directeur de campagne, pardon.
Il y a le bon parc qui était là et qui était très content.
Absolument. moment où je lui dis, mais s'il y a un moment, parce que forcément, il y a la question du vote utile allait se poser à 10% quand tout le monde à gauche est en toutes 5. Et je posais systématiquement la question sur cette question-là, ouais. ou sur ses propos sur les policiers, des choses qui peuvent beaucoup heurter à gauche aussi. Et il me disait...
Il y a eu un moment, un échange d'ailleurs avec un policier.
Exactement, ouais. Il me disait, mais il va planir, il va... On n'y est pas encore.
Bon, bois un peu parce que...
J'ai beaucoup parlé.
Vas-y, bois.
Et c'est, alors, ce qui est agréable, c'est qu'on est quand même le 17 février, donc il monte Paris, il fait quand même bon ce soir. Mais
pourquoi est-ce qu'on habite à Paris? Pourquoi est-ce qu'on n'habite pas ici?
Je crois qu'il faut délocaliser la rédaction.
Franchement, c'est vrai. Il va falloir rentrer à Paris, là. Ouais,
ouais mais...
Ah mais non, toi, tu restes
ah
demain.
Ah non, parce que demain, je le suis. Alors, c'est très drôle, parce que quand on s'est promené ensemble... Je ne vais pas le dire, mais enfin, c'est un homme qui, tout est politique, même quand il parle avec un journaliste dans une rue. Et il me dit, c'est
enfin,
très...
promener, c'est-à-dire qu'il t'a dit, bon, je vais visiter la cathédrale, venez avec moi, c'est ça.
Voilà, et puis du coup, étant fermé, on s'est retrouvé dans la ville à déambuler. Et puis il me dit, c'est beau ici. Alors moi, bien, enfin, je trouve ça magnifique, c'est un lieu que je connais bien, je pars souvent en vacances ici. Et je dis, oui, bien sûr. Puis il me dit, mais qu'est-ce qu'on doit s'emmerder?
Moi, franchement, je pense l'inverse, parce que moi j'ai grandi dans un coin encore plus rural qu'ici, et là, tu vois, d'être dehors, à voir les étoiles, ce qu'on ne peut pas faire à Paris, et à parler autour d'une bouteille de vin à 1h, je ne sais pas combien du matin, en février, mi-février,
sans
avoir même pas avoir froid, franchement, on est bien mieux qu'à Paris.
Je te confirme.
Bon allez, on va remballer, et puis on va aller se coucher parce qu'on a du travail. Hein.
Allez, merci, on repart Pierre. Demain. Merci Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt.